Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Nicolas Villas.
Oh la vive les amis, c'est parti pour deux heures d'after, deux heures de bonheur. Au menu de cet after, alors gros menu, ça a déjà enflammé d'ailleurs Twitter, les réseaux sociaux. Benzema est l'un des joueurs les plus sous-estimés du foot actuel. C'est Berbatov qui le dit, êtes-vous d'accord avec le Bulgare? Oui, non, pourquoi? On vous attend au 32-16 pour y répondre. Qui est pour vous le plus gros gâchis du foot? Ça met déjà le feu sur Twitter, on vous le disait. On vous attend là aussi au 32-16 pour y répondre. C'est l'une des suggestions d'ailleurs et qui a été émise ces derniers jours sur le hashtag MonAfter, puisque vous le savez, pendant cette période de confinement, c'est aussi vous qui faites le programme de cet after. Ce soir, Steve Garda, cavalier suisse, champion olympique individuel, champion du monde, champion d'Europe de saut d'obstacle, sera avec nous pour nous exposer sa vision du foot, des footballeurs, etc. Et puis ce soir, promis, il y aura un quiz. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 32-16. Avec nous ce soir, pour cet after, Laure Lepailleur. Bonsoir Laure. Est-ce qu'elle est là, Laure?
Salut.
Elle est là, Laure.
Salut,
oui.
À tous.
Tout va bien, tu vois bien?
Oui, je suis là. Oui, super, ça va.
Bon.
Ça va.
Roland Courbis également est avec nous. Salut Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Ça va Roland?
Ça nous fait plaisir de vous entendre. Oh. Ça va.
Et nous aussi, ça nous fait plaisir de t'entendre.
Salut Roland.
On s'adapte, je viens d'apprendre que demain on perd une heure, donc...
T'as vu, c'est dingue. Hein. On perd même des heures maintenant, c'est n'importe quoi.
Je sais pas si on perd ou gagne, je sais plus.
Ouais, c'est le chômage partiel. Lionel Charbonnier également est avec nous. Salut Lionel.
Salut Nico, salut à tous.
Comment il va Lionel?
Salut. Bah écoute, ça va, toujours pareil, moi, tu sais.
Je sens que ça te fait plaisir, Steve Garda, ce soir.
J'adore ce mec.
Alors, il est très rare dans les médias, en plus, hein, paraît-il.
Ah ouais, non, là, c'est vraiment une grande primeur. Les footeux ne savent pas la chance qu'on a sur RMC d'avoir Steve à l'antenne.
Ouais. Mais son palmarès, tu nous en parleras, mais
wow.
je l'ai un peu lu, là.
Ça forge le respect.
Ah ouais, non, c'est
on le disait, hein, champion olympique en 2012, il est champion du monde plusieurs fois, champion d'Europe également. Et tiens, également, sachez-le, alors c'est un invité un peu de dernier instant, Alexandre Song, qui fait partie de ces joueurs qui ont été licenciés par le président Constantin au Servette Genève, et bien sera avec nous également dans l'after dans quelques instants. Il va nous raconter ce qui s'est passé d'ailleurs en Suisse avec le FC Sion, pas le Servette Genève, qu'est-ce que je raconte, Alex Song, dans quelques instants. Et puis on vous rappelle que face à l'épidémie du Covid-19, RMC s'associe à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour soutenir les personnels soignants. Ensemble, tous avec les acteurs du sport, soutenons la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour donner et aider les personnels soignants. Rendez-vous sur rmc.fr et envoyez don DON par SMS au 92 111 pour donner 5 euros. Rendez-vous sur les réseaux sociaux d'RMC et sur le hashtag Solidarité Hôpitaux. Quelques petites infos, tiens, pour débuter cet after. Il y a quelques thèmes qu'on avait développés hier et derrière au cours de la semaine également. Interview d'Alexander Seferin à La Repubblica, journal italien, le président de l'UEFA qui a exposé les plans à l'étude concernant la reprise des compétitions. Voilà ce que déclare Alexander Seferin. Nous avons un plan ABC. Commencer mi-mai, en juin, voire fin juin. Le mieux de terminer le championnat, même à huis clos, même en été. L'important est de reprendre fin juin, sinon la saison sera perdue, dit-il. Alors du coup, autre possibilité quand même. Terminer cette saison au moment où débutera la suivante, qui commencera un peu plus tard, dit-il. Alors même si personne ne sait quand la pandémie prendra fin, nous devons attendre comme n'importe quel autre secteur d'activité, a déclaré Seferin. Voilà. Apparemment, l'UEFA et les ligues ont l'air à peu près d'accord hein, sur, on va dire, les perspectives.
Ouais, d'accord sur quelque chose d'impossible.
Soit d'impossible, ou du moins d'un certain toujours. Ouais, ça, c'est
non,
vrai.
Mais attends, on peut se mouiller. Et j'aimerais évidemment me tromper. Tu la connais, la formule, j'aimerais me tromper. Mais terminer fin juin, mais par quel miracle? Comment tu fais pour reprendre l'entraînement?
Non, commencer fin juin.
Et terminer fin juin.
Commencer fin juin, il dit.
Ah!
Il dit, si on peut pas reprendre fin juin, en gros, la saison est perdue. Mais il émet une autre possibilité, c'est de commencer la saison prochaine, suivante, par les matchs qui restent à jouer. Mais on sait pas quand on pourra débuter, c'est toute la question.
Ben, moi, c'est pas que je le pense, c'est parce que je serai voyant. Moi, j'espère qu'on reprendra, si tu veux, fin juin, début mai, et que ça se terminera fin août, mi-septembre. Je, si déjà c'est ça, ça voudra dire que bon, ben on a gagné le match contre ce connard de virus là, et donc ça sera déjà une belle victoire. Mieux que ça, je vois pas comment.
Alors, on l'évoquait hier également avec Vincent Chaudel, économiste du sport, qui était avec nous dans l'after. Canal+ ne veut pas payer la part des droits télé qui est liée à l'échéance d'avril. Alors, ça représente à 110 millions d'euros. Cette suspension de paiement a été confirmée par Maxime Sada, qui est le président du directoire de Canal, dans une lettre publiée aujourd'hui. Voilà, on parle donc de 110 millions d'euros, sachant qu'il y a un peu plus de 40 millions d'euros qui représentent la part de Bein Sport également. Donc l'info qui avait été révélée hier s'avère être vraie. Il reste donc ces quelques millions d'euros quand même qui pour l'instant sont en suspens.
On la comprend, hein.
Ouais, c'est vrai que pour l'instant.
Ouais, c'est exactement, c'est difficile pour les clubs, mais franchement, on peut comprendre la position de Canal+. Sans diffusion aussi, ils ont un manque à gagner énorme. Donc, on comprend la position et on peut comprendre aussi l'inquiétude de certains clubs, parce que sans la perception de cet argent, ça va être plus compliqué pour eux.
Ouais. Après, on ne sait pas, Nico, s'il y a la fin du championnat, qui va la diffuser. Ça se trouve, il peut y avoir une entente aussi et que Canal+ continue de diffuser la fin du championnat.
Bah, normalement, c'est eux, puisque c'est eux qui ont les droits. Donc.
Ouais, mais ça sera sur l'année. Donc cet argent qu'ils ont pas mis en avril, ils le mettront plus tard.
Oui, si la fin du championnat.
Ouais, mais tout dépend. Ouais, puis peut-être aussi tout dépend quel format ils vont garder, parce que si tu joues tous les trois jours, peut-être que eux, ils vont pas pouvoir faire les affiches comme ils font d'habitude. Du coup, ça va pas être, ça va être quand même un fonctionnement assez différent. Donc peut-être que le nombre de personnes par rapport à ce qu'ils auraient télévisé, les émissions qu'ils auraient fait autour, ça va peut-être aussi être plus compliqué. Et peut-être qu'eux aussi vont avoir un manque à gagner par rapport à ça.
Ah, c'est
donc
sûr que.
On peut aussi comprendre la position.
C'est sûr que quand on voit le cahier des charges, ça va chambouler leur grille des programmes, enfin celle qui était convenue au départ. Enfin, tout est chamboulé en ce moment.
Le match de 21h avec le match de 17h la veille, c'est sûr que ça va être.
Le match du vendredi soir.
Ah oui.
Ouais, tout est décalé. Tiens, et puis on vous l'avait promis également, il est en direct avec nous dans l'after. Ancien joueur d'Arsenal, formé au Sporting Club de Bastia, passé par le Barça, par West Ham, par Rubin Kazan. Alexandre Song, international camerounais, est en direct avec nous dans l'after. Salut Alexandre, comment ça va?
Bien, merci. Bonsoir à tout le monde.
Salut Alexandre.
Merci bonsoir, d'être Alexandre. Avec nous, Alexandre. Comment ça se passe le confinement, Alexandre?
Difficile, hein. Difficile, mais bon. Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pour être à l'abri. Il faut se mettre en santé. C'est plus important aujourd'hui. Le football passe après, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est plus important. C'est humainement, il faut sauver des vies.
Et où est-ce que tu es confiné, Alexandre?
Je suis chez moi en Suisse ici.
T'es en Suisse, t'es resté en Suisse.
Ouais.
Alors justement Alexandre, c'est vrai que ces derniers jours, on a beaucoup entendu parler de toi, d'autres joueurs également du FC Sion. Alors il y avait Djourou notamment qui faisait partie du lot de ces joueurs, alors qui ont été licenciés par le FC Sion parce qu'ils ont refusé une baisse des salaires justement qui avait été voulue par le président Constantin. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement à Sion alors ces dernières semaines?
On a joué un match amical vendredi et on était censé rencontré le président lundi, mais malheureusement, il n'a pas pu, il a eu un empêchement. Et mardi aussi, on devait le faire le mardi, on ne l'a pas eu aussi, pareil. Et on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas quoi faire. Et le mardi, je pense, mardi l'après-midi, vers 4h, je crois, on a reçu un WhatsApp où chacun devait signer pour dire qu'on nous baissait des salaires, qu'on nous payait 12 000, un truc comme ça. Et on devait renvoyer le papier le lendemain, dans le mercredi matin, à 12 heures plus tard. Nous, on a reçu ce document sans explication, sans rien. Et moi, je suis footballeur, c'est pas mon travail. Il y a des gens qui sont faits pour vérifier ça, tout cela. Après, moi, il fallait donner un avocat. Comment on peut te donner un document dessiné à moins de 24 heures? Tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu dis seulement de baisser ton salaire. Donc, logiquement, nous, on ne pouvait pas le signer, puisqu'on n'avait pas, on n'a pas eu de discussion. Tous les clubs aujourd'hui le font, parce qu'ils ont une discussion, ils ont un échange. Mmh. On a un capitaine, il n'a pas d'infos, on lui demande d'infos, il dit il est au courant de rien, personne ne l'a appelé. Donc nous, logiquement, on a dit tous ensemble, c'est pas une personne, chacun était chez lui. Donc on a décidé qu'on ne signait pas ce document, parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas de ce qu'il s'agissait, il fallait y avoir une discussion. Donc on n'a pas signé, on a renvoyé tous, je crois on était 25. Les 25 joueurs ont renvoyé le document en disant que non, parce qu'on voulait une discussion, on voulait un échange, de savoir ce qui en est. Et on l'a signé à 12h, et le mercredi à, je crois, à 4h ou à 5h, ils nous envoient 8 joueurs sur les 25 qui ont signé, non, ils envoient 9 joueurs, parce que nous, nous sommes en fin de contrat au mois de juin, donc ils disent qu'ils ont choisi que les 9 joueurs la majorité de nous sommes tous en fin de contrat au mois de juin. Mais ce qui est étonnant dans tout ça, le capitaine de chez nous, ils l'ont rajouté, ils l'ont mis et ils ont dit on est licencié. Mais licencié de quoi?
Et donc, du coup, quelle est la situation aujourd'hui? Tu te considères comme étant un joueur libre? Parce que bon, tu étais toujours à Sion, tu étais en confinement. En plus, t'en es où là, justement? T'en as parlé avec ton agent, ton avocat? Comment tu vas faire là pour les prochaines semaines?
Non, c'est facile. Mon avocat, il va s'en occuper.
Ouais.
Moi, aujourd'hui, j'ai été licencié. Donc, mon avocat, il va s'en occuper. C'est quelque chose qui est déjà parti à la FIFA. Et on va défendre nos droits. Ça, c'est, je vais défendre mon droit. C'est normal. Je pense que je suis pas en position de faute. J'ai fait aucune faute professionnelle. Mm-hmm. Parce que comme j'ai dit aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ça dépasse le cadre du football. Mais je pense que tous les clubs aujourd'hui, ils ont une discussion, ils ont un échange avec des joueurs pour essayer de trouver la meilleure solution possible.
Mm. Alors, Alexandre, vous aviez beaucoup de communication avec Constantin, le président?
Je vous dis, on n'a eu aucune information.
Non, avant ça, vous le voyez souvent, il était très interventionniste. C'est quel genre de président?
Non, c'est quelqu'un qui est proche des joueurs. Il parle, il vient souvent, il discute, il assiste aux entraînements. Il est là, il vit, c'est son club, il vit pour ce club. Mais ce qui s'est passé ces dernières semaines, on ne comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas. Du jour au lendemain, on ne peut pas vous envoyer un document à moins de 24 heures, vous dire de signer sans vous dire quoi que ce soit. Et vous dire après que vous êtes licencié.
Mais pourquoi il a fait ça selon toi? T'as une idée ou pas?
Je ne sais pas, c'est ça, ouais. Que je comprends pas. Personne n'arrive.
Il a bien ciblé, comme dit Alexandre, il a ciblé les joueurs qui sont en fin de contrat.
Alors ouais,
il a,
oui, il a peut-être peur de quelque chose. Oui, mais tu peux pas.
Bah ouais.
Ouais, mais tu peux pas licencier un joueur sous prétexte qu'il refuse du chômage partiel.
Ah non, mais si tu connais un peu l'énergumène, monsieur Constantin, ouais. c'est quand même quelqu'un de.
Il est quand même spécial.
Si tu regardes, je sais plus, c'était à l'époque de 92 à 97, 18, quelque chose comme ça. Je crois que tous les ans, il changeait d'entraîneur.
Ouais,
il n'y a pas eu, tu vois,
tous
c'est.
Tous les ans ou deux fois par an.
Ou deux fois par an. Et c'était très compliqué, quoi. C'est pour ça que je demandais à Alexandre quel type de relation ils avaient à l'intérieur du groupe.
Alexandre, puisque tu fais partie de ces joueurs qui étaient en fin de contrat, est-ce que tu avais déjà des négociations concernant une éventuelle prolongation, justement, pour la saison à venir?
Non, du tout. Je n'étais même pas. Moi, ce que je voulais faire, c'était définir la saison le mieux possible que je pouvais faire. Et après, maintenant, penser à partir à autre chose. J'ai fait 2 ans ici.
Ouais.
2 ans, c'est bien passé. Mais moi, je voulais continuer ailleurs. Je n'étais pas dans ce projet-là.
Mmh. Ça, il le savait, le président? Il en était
informé?
Non,
parce que je n'ai pas discuté avec lui. Je ne pense pas qu'il le savait. Parce qu'on n'a pas eu un échange par rapport à cela.
Mmh. Ouais. Spécial.
Et alors du coup, comment tu perçois ton avenir, Alexandre, puisque tu es encore un jeune joueur, 32 ans seulement, tu te vois où toi? Parce que tu le disais finalement, dans un coin de ta tête, tu te voyais peut-être déjà ailleurs.
Déjà, comme j'ai dit, pour moi, c'était le mieux, c'était de finir ici, parce que on était dans une situation un peu délicate, on ne gagnait pas ces dernières semaines, donc il fallait un peu essayer de faire du mieux possible qu'on pouvait, et moi, je voulais donner le maximum, c'était finir ici en beauté, parce que je suis venu ici, c'était un challenge pour moi et j'aurais pas fini dans ces conditions. Je voulais finir dans d'autres conditions, essayer de donner quelque chose au club. Mmh. Malheureusement, vu comment ça s'est terminé, on va dire, puisque j'ai été licencié, faut pas se mentir. Maintenant, je vais penser à, déjà, la première des choses aujourd'hui, c'est pas le football. Il faut penser d'abord à la santé et après, par rapport à cela, les opportunités. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Je ne vais pas me cacher. J'ai encore 3 ou 4 ans devant moi. Il faut que je profite au maximum d'avoir un meilleur challenge qui m'attend pour les saisons à venir.
Mmh. Tiens, rien à voir, Alexandre. On avait prévu d'en parler également dans les infos du jour aujourd'hui. Est-ce que tu as vu les déclarations de Cesc Fabregas concernant son départ d'Arsenal et qu'il a eu cette semaine? Il a déclaré, le joueur de Monaco, sur les raisons, les motifs de son départ d'Arsenal. Je me sentais un peu seul, surtout au cours des 2-3 dernières années. J'ai senti que Robin Van Persie et Samir Nasri étaient les seuls joueurs qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement. Alors, c'est des propos qui n'ont pas plu à certains anciens joueurs des Gunners qui ont joué à l'époque avec Fabregas. Ça a été le cas de Bakary Sagna notamment, qui a répondu, qui a dit c'est un peu dur, il n'a pas toujours été un joueur exemplaire au cours des saisons où il a joué chez les Gunners. Qu'est-ce que tu réponds toi à Fabregas face à ces propos, Alexandre?
C'est ce que je prends, c'est comme un frère à moi, vous savez, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi déjà, je n'étais pas au courant de ça. Quand vous me dites ça, je suis étonné, honnêtement, je ne sais pas. Mais après, maintenant, il faut voir les saisons qu'on a joué à Arsenal. Après, vous-même, vous allez juger. J'ai pas envie de dire que j'étais le meilleur ou quoi que ce soit, ou il y avait plein d'autres qui étaient meilleurs. Je dis, quand vous regardez Arsenal, à un moment donné, je pense qu'il y avait des joueurs aussi qui avaient un niveau un peu plus élevé, je crois. Hein.
Ouais.
À mon avis, il y avait plein de joueurs. Il y avait Rozicki, il y avait Abou Diaby, il y avait tellement de talents. Donc dire qu'il y avait que Samir et Robin, je pense que, à mon avis, mon point, je pense que c'est un peu dur.
Ouais. C'est un peu ce que dit Bakary Sagna, il était surpris aussi, lui, par les propos de Fabregas.
Exactement, il y avait tellement de talent, il y avait tellement de talent. Donc moi, je suis vraiment, franchement, je suis de son avis.
J'espère que certains de ses coéquipiers de Monaco ne vont pas parler de ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé.
Non, c'est une belle personne, mais je sais pas pourquoi il dit ça, mais je comprends pas.
Ouais. Écoute, Alexandre, qu'est-ce qu'on peut le souhaiter pour la suite maintenant, Alexandre? La santé, bien sûr, ça on te le souhaite à toi et tes proches, bien entendu.
Exactement, c'est là. Je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé, donner la santé à tout le monde. Après, le reste va suivre. Le métier, ça fait 16 ans, je le fais déjà, donc je connais. S'il y a la santé, tout va suivre.
Et un petit retour en Ligue 1, là, non?
Ah. Non, moi, je suis ouvert de toutes les façons. Pourquoi pas? J'ai commencé en Ligue 1, j'avais 16 ans. Et ça serait bien pour moi si je peux finir là-bas aussi, ce serait une belle chose.
Eh ben écoute, l'appel est lancé en tout cas. Alex, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct dans l'After, Alexandre.
Salut Alexander, et bonjour à toute la famille.
Merci.
Voilà, prends soin de toi.
Merci, coach, merci.
Prends soin de toi et des tiens, Alexandre. Bonne soirée, à très bientôt,
merci,
Alexandre.
Merci, bonne soirée.
Voilà, Alexandre Song qui était en direct avec nous dans l'After, voilà, c'est sympa. C'est assez dingue hein, ce qui s'est passé du côté du FC Sion également hein, pendant cette sale période-là de confinement.
Ouais, et malheureusement, il est possible que ce soit, enfin que ce soit pas un cas isolé, quoi. Malheureusement, il risque d'y avoir des présidents ou qui vont se comporter de la sorte. Hein. Moi, ça m'étonnerait pas, personnellement.
Ah, c'est sûr que.
Ouais, mais bon, c'est dans une période où tu dois être aussi dans le dialogue, justement, échanger énormément. Mais... C'est ce qu'il dit.
Ah non, mais ce qu'ils devraient faire, entre ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils font, ouais, c'est deux.
Mais,
hein.
Mais malgré peut-être la décision qu'il avait prise. Président, mais l'essentiel, c'est aussi d'avoir aussi un échange constructif avec les joueurs. L'essentiel, c'est d'avoir ce dialogue aussi. Là, il n'y a même pas eu de dialogue.
On est d'accord,
justement.
Mais tu vas pas lui dire ce qu'il faut faire à Constantin.
Mais ça ressemble tout simplement à un piège.
Oui.
Donc voilà. Donc c'est une coïncidence, vous pensez, que ça tombe sur 9 joueurs et 9 joueurs en fin de contrat?
Oui, bah c'est ce que disait Alexandre.
Non, c'est pas une coïncidence.
Ouais. Voilà, donc je pense que c'est un piège au point final. Et maintenant, pour arriver à gagner avec les avocats, que c'est pas un licenciement, alors là, bon courage.
Ouais. Ouais, non, c'est mort.
Dans quelques instants, Steve Garda, cavalier suisse, champion olympique individuel au JO de 2012, champion d'Europe et du monde de saut d'obstacles, sera avec nous en direct dans l'After. Personnalité rare dans les médias d'ailleurs, le Suisse, qui sera là pour nous donner sa vision du foot et des footballeurs. Tiens, venez lui poser des questions si ça vous dit à Steve Garda, grosse star du monde du hippisme. Il sera avec nous juste après ça.
RMC, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Laure Lepailleur, Lionel Charbonnier, Roland Courbis avec vous sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live, cet after qui a merveilleusement débuté. On était avec Alex Song, international camerounais, qui fait partie de ces joueurs qui ont été licenciés par le président du FC Sion. Et autre invité de prestige ce soir dans l'after, Steve Garda, cavalier suisse, champion olympique individuel au JO de 2012, champion d'Europe, champion du monde de saut d'obstacle. Bonsoir Steve, merci d'être avec nous dans l'after.
Bonsoir à vous et merci de m'accueillir dans cette émission que j'adore écouter.
C'est vrai, t'écoutes l'after, Steve?
Oui, j'écoute souvent un podcast et c'est vrai que vraiment j'adore votre émission et spécialement dans ces temps où malheureusement on n'a pas beaucoup de sport, merci de continuer à nous faire passer des bons moments.
Ah bah merci à toi d'être là, parce que c'est vrai, on en parlait avec Lionel, alors tu le sais, un grand fan de chevaux également. Tu es très rare dans les médias, Steve.
Bah, c'est vrai que c'est pas là où je préfère être. je préfère être tranquille avec mes chevaux ou m'occuper de mon sport, mais c'est vrai que je suis pas un fan des médias.
Bon, on a essayé de faire une interview à ton cheval, mais on n'a pas tout capté. Hein. Pour la radio, c'est un peu chiant en fait, c'est un peu compliqué. Comment ça va, Steve? Comment ça se passe le confinement en Suisse?
Bah, je dois dire qu'on est un peu privilégié, nous, étant donné que avec les chevaux, on a le droit de continuer à travailler nos chevaux. Donc, on a une installation qui est quand même sur presque 15 hectares. Donc j'ai envie de dire que la vie ne change pas beaucoup pour nous, on s'entraîne simplement sans compétition. En général, on est loin de en concours, en compétition toutes les semaines du jeudi au dimanche et là donc on reste à la maison mais on peut continuer à s'entraîner normalement.
Ouais, parce que
bonsoir,
Nico... Salut Steve.
Excuse-moi, une question qui est bon évidemment de la curiosité. Tu as commencé à avoir cette passion à quel âge?
Alors depuis tout petit, mon papa était cavalier dans l'équipe suisse déjà et je pense que on m'a mis à cheval avant de savoir marcher, donc toute ma vie a été vraiment bercée avec les chevaux, et c'est depuis tout petit une passion qui guide ma vie.
Et nous le football avec des grands joueurs et des bourrins.
Lionel, donc, tu voulais parler, poser une question à Steve.
On se ressemble.
Ouais, non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Steve. Il parlait de son emploi du temps, tout ça. Ça ressemble ainsi un petit peu à ce que nous on fait dans le football, c'est-à-dire que lui part généralement, c'est ça, Steve. Tu pars du jeudi au dimanche où tu fais les grandes compétitions. Ensuite, dès que tu peux, tu reviens voir ton équipe qui te prépare d'autres chevaux et vous parlez de la stratégie. C'est tout ça. C'est entre toi. T'étais en concours et tu restes loin de la famille, de tout le monde, toute la fin de semaine pratiquement.
Oui, c'est exactement ça. Je pense que je participe de 45 et 48 compétitions internationales par année. Et ça commence le mercredi ou le jeudi. Donc oui, j'ai le lundi, mardi, mercredi pour m'entraîner à la maison. Parce que c'est quand même, on est obligé de toujours continuer à produire des nouveaux chevaux qui vont prendre un jour la relève des autres. Et je tourne sur une trentaine de chevaux. Donc voilà, il y a tout un entraînement qui se fait le lundi, mardi, mercredi, et à partir du jeudi, on est un peu partout sur la planète avec trois ou quatre chevaux qui nous accompagnent pour les compétitions.
Steve Garda, cavalier suisse, est en direct avec nous dans l'after. On rappelle, un champion olympique, champion d'Europe, champion du monde. Alors Steve, on est dans l'after foot, donc
c'est
on est
fou de foot.
Voilà, c'est la question que j'avais posée. Tu aimes le foot, donc Steve, t'aimes quoi? Quelle équipe, quel joueur qui t'a fait rêver? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans le foot?
Oui, alors j'adore le foot. J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, et encore aujourd'hui des. J'étais plutôt un milieu offensif, on va dire.
D'accord.
J'aime marquer des buts. Donc j'ai fait un peu la carrière jeune jusqu'à 14-15 ans, où après j'ai commencé vraiment à me concentrer seulement sur mon sport et l'équitation. Mais voilà, j'ai toujours eu une passion pour le foot. Et ben, je vais dire que mon équipe de cœur, c'est l'OM.
Ah
oui. Parce que j'ai été les années 90 de Marseille. Ben, c'est ce qui a un peu bercé, on va dire, ma carrière.
Roland Courbis. Ah bah oui.
Non, mais la victoire en Ligue des Champions, c'était un peu quand j'étais gamin encore, et c'était plein d'étoiles dans les yeux, et je suis toujours resté très proche de cette équipe. En plus, ma merveilleuse femme est marseillaise, donc tout ça ajoute que Marseille a toujours resté mon équipe favorite, ainsi que le Borussia Dortmund, puisque notre star suisse Stéphane Chapuisat a joué pendant longtemps.
Ah, je l'aime pas celui-là.
Ah, qu'est-ce qui vous a mis, Lionel?
Qu'est-ce qui m'a mis, Steph, voilà, je trouve que tu as très bon goût.
Bien.
et du coup, c'est qui ton joueur préféré?
Mon joueur préféré maintenant, aujourd'hui?
Bon, globalement, ouais.
Bah, je suis évidemment, je suis un peu, on va dire, néo dans ce sport. Je pense que Lionel Messi fait rêver tout le monde, évidemment. Mais moi, c'est plus vraiment les belles équipes. Je vais toujours préférer regarder l'Ajax jouer, parce qu'ils ont un jeu que même s'ils perdent, on aime les voir jouer. Et je préfère voir vraiment des équipes qui produisent un beau jeu plutôt que tel ou tel joueur qui sont des soi-disant stars.
Alors justement, Steve Garda, c'est ça qui est intéressant. Quel regard tu portes, toi, sur le foot, toi qui est une pointure dans ton sport, dans l'équitation, dans le saut d'obstacle, est-ce que tu arrives à t'identifier en tant que professionnel du sport aux footballeurs d'aujourd'hui qui sont comme toi au top de leur discipline?
Je pense que c'est vraiment différent. Je pense que c'est très différent, et je pense que le foot, c'est vraiment, c'est tellement populaire que c'est un peu un reflet, je pense, de la société. Mmh. Et je pense que les problèmes qu'il y a dans le foot, c'est un peu les problèmes de la société aujourd'hui. C'est pas uniquement sur le foot. Je trouve que malheureusement, l'argent prend une partie trop importante dans le sport, dans le foot, mais même dans la vie en général aujourd'hui. Et je pense qu'on oublie souvent que, voilà, si le foot spécialement est un sport fantastique, c'est aussi un sport populaire au départ. Et qui dit populaire dit que c'est un sport pour tout le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fan de foot, on ne peut plus voir un match de foot à la télé gratuitement. On est obligé de payer plutôt cher des abonnements, même pour regarder ce sport qui est censé être populaire. Si on achète un maillot de son équipe qu'on aime bien, c'est quand même des prix qui coûtent de plus en plus cher. Et les droits TV qui sont exorbitants. Et tout ça, à la fin, c'est pour payer des salaires de joueurs pour pouvoir avoir le plus de stars possible. Et je trouve que c'est un petit peu c'est dommage que l'argent, on va dire, contrôle tout ce business. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas très sain, puisque il suffit de 3 semaines sans foot pour que, on va dire, un empire se, excusez-moi de l'expression, mais se casse la gueule. Ouais. Donc pour moi, c'est bien une preuve que c'est peut-être pas le système idéal dans lequel on vit aujourd'hui et que il y a peut-être d'autres priorité auxquelles il faudrait penser.
Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner justement, toi, par rapport à, eh ben, peut-être à ton mode de rémunération, changer quelque chose chez les footballeurs? Quels conseils tu pourrais nous donner, enfin en tout cas donner à nos dirigeants, si tu en as un, mais, ou plusieurs?
Je crois que non, de toute façon, loin de moi faire une critique, hein, je suis simplement un cavalier,
mais notre vision,
qui adore,
ouais,
sa vie et son sport, mais voilà ma vision, on va dire, de mon football idéal. Pour moi, le sport, c'est un sport de, on est payé à la performance. C'est-à-dire, si on est bon, on gagne de l'argent. Moi, dans mon sport, si je monte pas bien, ben, je repars à la maison sans rien. Un joueur de tennis, un joueur de golf, s'il gagne pas son tournoi, il a rien. Je trouve que c'est exagéré dans le foot que, parce que, on a été bon à un moment, on a garanti des fois des sommes absolument astronomiques pour des salaires. Et moi, je verrais plutôt, parce que tous les footballeurs font le même boulot, donc pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas tous payés la même chose? Et après, évidemment, il y en a qui vont vous faire gagner, il y en a qui vont mieux jouer, il y en a qui vont plus courir, il y en a qui vont prendre moins de buts. Et après, évidemment, qu'il pourrait y avoir un système tout de bonus qui fait que les meilleurs gagneraient toujours beaucoup plus que la moyenne. Sans parler de leur contrat de sponsoring et tout, mais je pense que voilà, il y a trop d'argent en jeu et ces salaires qui sont garantis pour des fois même simplement être sur le banc de touche, je trouve que c'est un petit peu dommage.
Steve Garda, cavalier suisse, champion olympique en 2012, champion d'Europe, champion du monde de saut d'obstacle, est avec nous en direct dans l'After. Alors Steve, c'est vrai que tu parles du mode de rémunération, alors sans rentrer forcément dans les sommes, à moins que tu veuilles les dévoiler, hein, nous on est prêts à tout entendre. Toi justement, comment tu gagnes ta vie en tant que pointure dans ton domaine, justement, c'est quoi? C'était payé par, je sais pas, la Fédé, par une ligue, par tes sponsors? Comment, c'est quoi la proportion de ta rémunération qui provient des performances, puisque c'est ce que tu disais il y a quelques instants?
Oui, ben en fait c'est simplement au résultat, à la performance. Donc on a chaque compétition à laquelle je prends part a une dotation. Et moi j'ai une équipe à la maison, j'ai quand même 10 employés qui travaillent pour moi, donc je dois faire tourner tout ce business. J'ai aucune entrée fixe, si ce n'est de quelques sponsors. Mais je dirais que j'ai un tiers de mon budget qui est couvert par les sponsors et les deux tiers. Chaque année, je dois être performant pour justement rentrer des gains pour continuer à tourner.
La carrière de ton sport et de justement exactement ce que tu fais, ça peut durer combien d'années?
Oh, c'est très long. C'est aussi ça qui est magnifique, c'est dans ce sport, c'est que on peut venir performant très jeune. Mais on a encore des cavaliers qui ont passé 50 ans et qui sont encore très, très performants. Évidemment que l'effort physique n'a rien à voir avec ce que doit faire un footballeur.
Ouais, mais ça fait
il n'y a aucune comparaison possible.
Ouais, par contre, la concentration et l'obligation d'être bon le jour J à l'heure H, ça, c'est sûr que c'est pas simple.
Voilà, il y a une pression plutôt mentale.
Et justement, j'allais poser une question. Ouais, j'allais poser une question, c'est qu'au-delà de l'entraînement avec les chevaux, est-ce que justement tu t'astreins une autre activité, préparation physique à côté?
Alors personnellement, je fais beaucoup de sport parce que voilà, mm-hmm. Je suis un peu fan de tous les sports et je suis un peu hyperactif. Donc,
tu joues au foot avec Grégory Watley, non?
Oui, je joue au foot avec Grégory, avec d'autres copains.
Un poids de forme à garder par obligation, ouais, compte tenu de...
Alors, j'ai pas une obligation, mais je m'y astreins parce que si j'attends des chevaux qui soient à 100% fit, je veux aussi moi être 100% fit et je fais au minimum une heure de sport un peu plus poussé tous les jours parce que c'est vraiment une passion pour moi et j'ai besoin de me défouler en plus des 6 ou 7, 8 heures que je passe à cheval chaque jour.
Il y a une chose qui est intéressante dans ce que dit Steve Garda, quand il parle du mode de rémunération, c'est vrai que Steve Garda, bah, ça peut être un ballon d'or dans l'hippisme, et il le dit lui-même, les deux tiers de ses revenus, ils proviennent de ses performances, hein, c'est-à-dire en gros, s'il ne va pas décrocher la médaille, oui, bah, il n'a pas d'oseille à la fin. Alors, oui, ça,
attends, ce qu'il dit pas aussi, c'est que dans ses sponsors qu'il a, je peux te dire qu'il faut qu'il se tienne à carreau parce que c'est aussi ils sont vachement à cheval, ce sont des gros sponsors, c'est enfin, des gros sponsors.
Ouais. Ah, le jeu de mots,
le jeu de mots. T'as vu. Mais on va parler, alors je sais pas pour Steve, mais on va parler des plus grandes maisons, ça va être les Rolex, ça va être Cartier, ça va être Longines, ça va être tout ça, enfin plein de et ces gens-là sont très font très très attention à l'image véhiculée par ces par Steve et par ces autres enfin les autres pilotes et donc ouais. Parfois on n'a pas la même attitude lorsqu'on est sur un terrain de foot, on peut pas dire qu'on soit irréprochable.
Attends, compte tenu de ce que j'ai pu entendre et félicitations pour la façon de s'exprimer de Steve, mais comparons ce qui est comparable. On ne peut pas comparer le sport de Steve avec le football, qui est le sport tout simplement de la planète. Donc, alors après.
Non, mais ça ne t'empêche pas d'être mais, comment. Mais que tout soit respectueux sur le terrain, d'avoir un comportement digne et tout ça.
Mais bien sûr.
Là, c'est, que ce soit dans le foot ou n'importe quel autre sport.
Mais ça ne fait rien. Dans le foot, avec en plus, on vient de l'entendre, un sport, celui de Steve, qui peut durer. Très très longtemps.
Ah ouais non, je t'arrête. Il a raison. Ça peut s'arrêter aussi tout de suite. C'est-à-dire que demain, il va curer les pieds de son cheval. Il prend un coup de pied dans la tête, c'est fini. Et ça arrive très très fréquemment.
C'est de la même façon qu'un footballeur peut être blessé.
Exactement de la même façon. Steve, arrête-moi si. Ouais. Mais c'est, ça peut aller très très vite. Une chute, n'importe quoi. Ils ont les mêmes blessures aussi. Hein. Il est croisé. Ils ont tout ça aussi. Hein.
Non, c'est tout à fait ça. C'est sûr qu'on peut aussi se blesser, mais je comprends aussi tout à fait Roland a aussi raison, justement, quand il dit qu'on peut pas comparer, évidemment, la carrière d'un cavalier, la carrière d'un footballeur qui s'arrête à 35, 36 ans, évidemment que c'est différent. Mais je pense que, de nouveau, c'est dans la société aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui doivent changer de boulot à 28 ans, à 32 ans, à 40 ans et se réinventer et retrouver quelque chose. Nous, moi, c'est vrai que dans mon sport, c'est génial parce que même si je monte plus, je peux continuer à entraîner, je peux continuer à voilà, il y a plein de jobs autour du cheval aussi qui a peut-être...
Alors comme toi, Roland.
Tiens, les gars, je vous propose d'accueillir Johan qui est supporter suisse, qui nous appelle de Suisse d'ailleurs. Bonsoir, Johan.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'after, Johan.
Je suis supporter, je suis plus collègue qu'autre chose, parce que c'est Morgane Maury, votre collègue, qui m'a mis en contact avec vous. Donc voilà, j'ai l'occasion de le côtoyer sur les pistes de ski et je travaille également dans un média suisse pour le foot.
Donc, en fait, il veut des vacances gratos, Morgane, il est malin.
Ouais, c'est ça. Je l'ai accueilli d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, c'est pour ça. Donc,
alors dis-nous, Johan, Steve Garda, grosse star en Suisse.
Ah ouais, c'est clair. Il nous a fait vibrer aux Jeux Olympiques, que ce soit à Londres, après à Rio, malheureusement, il n'y a pas eu la médaille, déjà en 2008 à Pékin. Mais alors, Steve Garda, si on parle des sportifs individuels, il y a Roger Federer, les skieurs et Steve Garda. C'est quand même une sommité, il est vraiment connu dans toute la Suisse.
Ouais, non, c'est une... Alors la particularité de Steve aussi, c'est que souvent, alors tu peux avoir des champions qui vont gagner une médaille avec un cheval parce que le couple se fait bien et tout ça. Steve, si on regarde ses médailles, souvent elles ont été avec un autre cheval et en plus des chevaux français, Steve.
Oui, c'est vrai que j'ai une affinité pour les chevaux français qui correspondent bien à ma philosophie de l'équitation et c'est vrai que c'est avec eux que j'ai eu le plus de succès.
Parce que la difficulté, c'est à chaque fois de refaire un couple, c'est-à-dire remettre... C'est pour ça que moi, je te disais en off tout à l'heure, Nico, je te dis, moi, je les appelle plutôt des pilotes plutôt que des cavaliers. Pour moi, cavalier, c'est presque péjoratif par rapport au métier qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils doivent remettre à chaque fois les boutons là où il faut et sur chaque cheval, les boutons sont différents. C'est comme sur une Formule 1, tu vois, ils préparent leur Formule 1, ils préparent leur truc. Ouais. Et les boutons, tu dois les changer et te réadapter à chaque fois. Et avoir des médailles comme ça tout le temps, rendez-vous, c'est phénoménal.
C'est phénoménal. C'est fabuleux, c'est sûr.
Tiens, d'ailleurs, quand on préparait l'émission, il y a Kamel Boudra, qui est notre spécialiste hippisme chez RMC,
qui avait tweeté, qui avait dit
dites-lui bonjour de ma part, c'est un immense champion. 3 finales de Coupe du Monde avec 3 chevaux différents et l'or à Londres, toutes ses victoires quasi avec des chevaux français. Voilà ce que nous a dit Kamel. Tiens, Johan, tu voulais glisser un mot, je crois, sur le foot suisse, c'est ça, Johan?
Bah, non, écoute, vous parliez avant un peu du FC Sion et tout ça. C'est vrai que c'est délicat un peu pour tous les clubs actuellement parce que dans le football suisse, on est en pleine réforme actuellement. On est en train de réfléchir. On a 10 équipes dans la première division et... la réflexion actuellement, c'est de passer à 12 équipes. Et avec ce qui se passe avec le coronavirus, ben ça met tout un peu en plan.
si tu veux, parce que on n'arrive pas à savoir sur quel pied on va danser la saison prochaine, la saison d'après, et on ne sait pas quand ça va reprendre. Donc, à la base, il devait avoir ces discussions qui devaient se terminer, ça devait être la semaine passée, tout a été reporté. Et d'ici deux mois, on doit savoir si on va jouer dans une année et demie ou même déjà dans trois mois à 12 équipes. Donc c'est très délicat chez nous.
Mais vous êtes toujours
à 10 actuellement.
Vous êtes toujours en système de play-off,
on est toujours à 10, mais le but c'est quand même passer sur ce qui se fait sur le modèle autrichien qui fonctionne.
Ouais.
Et il y a des réflexions qui sont menées depuis un petit moment parce que la Suisse, si vous suivez un peu le championnat suisse. À travers peut-être les performances de
Saint-Gall en tête, c'est avec Peter Ziegler.
Voilà, ouais, c'est Saint-Gall ex aequo actuellement avec Young Boys. Et le but, c'est vraiment que le championnat suisse grimpe à nouveau au coefficient UEFA parce qu'il a dégringolé ces dernières années. On a perdu une place dans les compétitions européennes. Nous avons plus que quatre équipes dès la saison prochaine. Mm. Et il fallait faire des réformes. Et c'est vraiment délicat actuellement.
Tiens, d'ailleurs, il y a une question qui est posée sur l'application Direct Studio. Steve, il y a Hugo qui nous demande quel est ton club en Suisse. Quel club tu supportes en Suisse?
J'étais plutôt Grasshoppers.
Ah, Zurich. Les sauterelles.
Oui, les sauterelles, exactement.
Voilà. Merci, Johan, d'avoir été avec nous.
Ouais, avec plaisir.
À bientôt, Johan.
Salut, Johan.
Steve. Salut. Bah merci d'avoir été avec nous également, Steve.
Bah merci à vous.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois à venir? Bon, la santé, toi aussi, à toi et tes proches.
Vous savez, j'ai une vie extraordinaire, j'ai absolument tout ce qu'il me faut, je suis un privilégié et il y a beaucoup d'autres personnes à qui nos vœux peuvent aller en priorité.
En tout cas, je sais pas ce qu'on peut te souhaiter, mais faire ce que tu fais, écoute, continue. Tu as toutes nos félicitations.
Ouais, continue.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Steve Garda, d'avoir été avec nous.
Bonne continuation.
Merci. Toi aussi, bonne
merci
soirée
beaucoup.
À toi. Et voilà, il prend soin de toi,
ses proches. Ciao et merci. Ciao,
merci Steve. Merci à
vous. Voilà, ciao, ouais. Steve. Voilà, très, très, très bon ce Steve Garda, Lionel.
Ah, je t'avais dit, c'est un mec.
Excellent.
Là, c'est la crème de la crème au niveau des champions. Mais je connais pas un champion qui soit pas comme ça.
Bah, maintenant, faut que tu nous cales Federer. Voilà, qu'on voit vraiment qu'on puisse comparer, en fait.
On va essayer.
On est plus Garda ou Federer. Voilà.
On va essayer.
Voilà,
moi, Steve.
Écoute, dans quelques instants, on sera Fred Hermel parce qu'on va lancer un débat. Enfin, c'est pas nous qui le lançons d'ailleurs, c'est Dimitar Berbatov qui a déclaré, que Benzema était l'un des gens les plus sous-cotés du football actuel. D'accord, pas d'accord, on attend vos suggestions, vos interventions au 32-16. A tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Et Lionel Charbonnier, Laure Le Payeur, Roland Courbis avec vous sur le hashtag RMC Live. Beaucoup de réactions également sur l'application Direct Studio après l'intervention de Steve Garda il y a quelques instants. Pour l'instant, on a un after spécial suisse. Alexandre Song avait ouvert cet after. Lui qui vient de se faire virer du FC Sion par le président.
On a envie de chocolat, c'est pour ça.
Je comprends pas. Et ben là,
confinement.
Rien à voir. Mais pourtant, lui aussi, il aime le chocolat. Fred Hermel est avec nous. Bonsoir Fredo.
J'adore le chocolat.
Bah oui, bien sûr.
Et je vais pas faire comme c'est tous les bobos qui disent j'adore le chocolat noir. Non, j'adore le chocolat au lait comme tout le monde.
Ah non, j'adore le chocolat noir. Moi j'adore le chocolat noir.
Moi aussi j'adore le chocolat noir. Mais c'est pas chic de dire qu'on aime le chocolat au lait.
Salut Fredo.
Hola chica, hola chicos.
Je suis pas un espagnol, moi. Tu la connais, ça là ou pas? Tu l'as jamais vu? Moi, je t'enverrai le lien de la vidéo. Bref. Alors si t'es là, mon Fredo. C'est parce que Dimitar Berbatov a fait une interview pour Betfair. Vous savez, il y a pas mal d'anciens joueurs qui ont signé des deals, des contrats avec des sites de sponsors en ligne. L'ex-buteur bulgare qui a été interrogé sur le cas Luka Jovic au Real Madrid. Alors recruté l'été dernier pour 60 millions d'euros, le Serbe qui a planté que deux buts en un peu plus de 20 matchs cette saison avec le Real Madrid. Et voilà ce que répond Berbatov sur Luka Jovic. Pour l'instant, les choses ne vont pas comme il le souhaite, mais n'oublions pas qu'il a Karim Benzema devant lui. Pour moi, Benzema est l'un des joueurs les plus sous-estimés du football en ce moment. Il marque tellement de buts et il n'obtient pas souvent la reconnaissance qu'il mérite. Question, comme le dit Berbatov, estimez-vous que Benzema est sous-estimé? 32-16 pour y répondre, hashtag RMC Live. Tiens, Fredo, il est dans l'histoire du Real Madrid quand même. Alors, ne serait-ce que pour les stats, Karim Benzema, au niveau des buts, au niveau des matchs, au niveau des titres.
Hein. Ah oui, je n'ai pas bien compris, ou alors il y a un mot ou un morceau de phrase qui me manque. Quel rapport ça, que le fait Benzema soit sous-estimé par rapport à la non-intégration pour le moment de Jovic?
Parce qu'il dit que si Jovic n'y arrive pas, c'est parce que Benzema est trop fort.
Voilà.
Mais que les gens ne valorisent pas ça. Voilà ce que veut dire Berbatov. Je traduis, bah, c'est ça.
Bah, c'est, ça
c'est lui qui sous-estime son joueur. Alors, enfin,
non.
S'il dit qu'il est barré
par un... Au contraire, c'est que Benzema, justement, il est beaucoup plus fort et que c'est difficile de le déloger, en fait.
Exactement. Bah, voilà.
Et s'il est arrivé, mettons que Benzema soit pas là, et si Jovic il arrive et qu'il y a Ronaldo, alors. Oh, il change de sport.
Bah, c'est pas le même poste, déjà, donc.
Tu vas pas
nous casser notre débat, coach.
Mais non, mais j'ai
fait trois jours que Nicolas pose sur le débat et moi aussi.
On a même anticipé l'interview de Berbatov.
Ben mais comment tu peux être sous-estimé quand t'es le meilleur attaquant du Real? Enfin, je comprends pas. Tu joues dans la plus grande équipe.
Non, mais je pense qu'aussi. Après, je pense aussi ce qu'il voulait dire, c'est que de façon générale, c'est vrai que Benzema, il est peut-être sous-estimé.
Moi, parce qu'il est pas en équipe de France.
Non,
pas forcément. Je pense que dans les numéros 9, il est pas forcément mis toujours au premier plan. On parle souvent des joueurs comme Agüero, Lewandowski, etc. Et des fois, c'est vrai qu'on oublie un peu Benzema dans ces discussions.
Non, mais attends, Lionel, toi, ta réponse, mais justement, toi, ta réponse, ça peut être de dire, moi, j'estime que Benzema n'est pas sous-estimé.
Oui, mais c'est ça. Okay. Moi, je trouve pas qu'il soit sous-estimé. Il est numéro 9, indiscutable. Soutenu par l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Dans la meilleure équipe du monde, il est titulaire. Il y a des grands joueurs derrière lui qui n'arrivent pas à l'enlever du terrain. Non, il est pas sous-estimé. Alors, on a tendance à dire qu'il est sous-estimé. Pour moi, je le prends comme ça. Parce qu'il est pas simplement en équipe de France. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout, ce sont pas forcément les meilleurs joues qui jouent en équipe de France.
Fredo, resitue-nous quand même Benzema dans l'histoire du Real.
Ah ben il est dans l'histoire du Real. Il faut pas oublier que Benzema est le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, qu'il n'est plus qu'à 11 buts de Raoul pour devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, derrière un certain Cristiano Ronaldo et un autre certain Lionel Messi, qu'il a battu plein de records, il a dépassé Puskás notamment au nombre de buts marqués, vous savez il y a toutes les statistiques en Liga, en Europe, etc. Il a marqué, je crois aujourd'hui, plus de buts en Europe qu'un certain Alfredo Di Stefano, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Non mais Benzema, si vous prenez ses stats, c'est un truc de malade. Il fait partie de l'histoire du Real Madrid. Il a gagné 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions.
Mais est-ce que tu estimes qu'il est sous-estimé du
coup ? Oui. Ah mais depuis le début. Même encore.
Alors attends, Fred, on va
expliquer, coach. J'expliquais, coach, simplement. Benzema. Non, mais simplement pour vous puissiez. J'ai donné quelques infos pour que vous puissiez débattre.
Vas-y, Fredo.
Non, si tu. Le truc le plus important, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un concurrent, les supporters du Real Madrid, les enquêtes qui étaient. Les sondages qui étaient faits dans les journaux, Higuain, on voulait Higuain plutôt que Benzema. Il fallait vendre Benzema. Arrive Adebayor, il devient Manolito Adebayor. Il faut virer Benzema, il faut garder Adebayor. Mais à chaque fois. Pardon ?
Il y a eu Chicharito aussi.
Et Chicharito, c'était le meilleur. Il fallait mettre Benzema sur le banc. Jusqu'au départ de Cristiano Ronaldo, à partir de la saison dernière, où Benzema, enfin libéré de Ronaldo, a montré qu'il pouvait marquer beaucoup de buts, les gens voulaient tout le temps un autre attaquant plutôt que Benzema. La proportion de gens au sein des supporters du Real et au sein de la presse espagnole qui supportaient Benzema était peut-être de 25 ou 30%. Une immense majorité des gens ne voulaient pas de Benzema.
Et c'est là donc, qu'il y a le Jovic. Pour essayer de comprendre.
Non mais on s'en fout, Jovic, coach, c'est pas ça le truc.
Fredo, tu parles aussi en Espagne. Effectivement, tu y parles de ça, mais moi je dirais aussi qu'il est sous-estimé en France parce que aussi je pense qu'il a souffert d'une certaine image et je pense que c'est un joueur qui est aussi sous-estimé alors que footballistiquement parlant, pour moi, il fait partie des meilleurs attaquants.
Ouais, mais l'image, c'est lui qui l'a géré tout seul.
Oui, mais quand même, si on parle de football,
on lui a pas collé une autre image que ce qu'il a donné quand même.
Les gens n'ont pas compris.
Oui, mais
Benzema, Fred, je sais qu'on l'aime tous beaucoup. On le met quand même pas dans la catégorie des grands joueurs comme Messi, Ronaldo, Platini, Zizou. On est bien d'accord. Il est quand même un peu en dessous.
Bien sûr qu'il est en dessous.
Moi, je pense qu'il faut le placer aussi dans les numéros 9 de pointe.
Exactement. Moi, je suis d'accord avec Laure. On n'a jamais. Moi, je pense que le gros problème de Benzema, c'est que son jeu est peut-être trop compliqué à comprendre pour le supporter lambda. Moi, à chaque fois, il est en train de terminer sa 11e saison au Real Madrid quand même. Hein. Non, mais je parle pas de vous, les amis. Non, mais parce que toi, tu apprécies Benzema. Moi, c'est simple. À chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un du football, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, que ce soit un directeur sportif, tout le monde, tous les gens du foot, parce qu'ils connaissent le foot, aiment Benzema. Mais dès qu'on sort des professionnels du foot, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il a un jeu plus difficile à déchiffrer qu'un autre. Son importance auprès de Cristiano Ronaldo, les gens ne la voyaient pas. Le premier à la voir, c'était premièrement Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il avait un jeu, il a toujours un jeu trop sophistiqué pour les supporters de base.
C'était un serviteur pour Ronaldo à Polo Echange.
C'est vrai que Fredo, finalement...
Ouais, mais moi, je dirais, moi...
Non, oui, vas-y, pardon, Laure. Vas-y, Laure.
Oui, moi, je rejoins Fred, ce qui dit, pour moi, Karim Benzema, il incarne le vrai numéro 9. Parce que c'est vrai qu'on parlait justement de lui quand il jouait avec Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'il s'est mis un peu aussi au service de cet attaquant. Et c'est vrai que la complémentarité entre les deux joueurs a parfaitement fonctionné. Quand tu regardes un peu Benzema, pour moi, c'est déjà des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Et moi, ce qui me marque le plus chez ce joueur, c'est avant tout son intelligence de jeu et sa qualité des déplacements. Son intelligence de jeu, parce que quand tu regardes un petit peu ses statistiques, il est capable d'être buteur, mais aussi d'être passeur. Et je pense que c'est là aussi où ça fait sa plus grande qualité, parce que pour moi, c'est un joueur incroyable dans le fait de s'adapter à différentes situations. Et il s'est adapté à différentes situations quand il était au Real Madrid. C'est-à-dire quand il a fallu jouer avec Cristiano Ronaldo, c'est la star de cette équipe du Real Madrid. Et ben lui, il a eu cette intelligence, cette qualité de déplacement, cette complémentarité qu'il a pu avoir avec Ronaldo pour faire un duo fantastique. Et moi, sur ce côté-là, je trouve hyper respectable. Et ce qu'on oublie aussi, peut-être, c'est que dire que dans le monde du sport, dans le monde du football, ce qui est le plus difficile, c'est la régularité dans les performances. Et ça fait plus de 10 ans qu'il est au Real Madrid. Alors, et Karim Benzema, il est régulier depuis plus de 10 ans.
Justement, il y a quand même, pour moi, une particularité sur les 4 dernières années, que seul Benzema, en ce moment, et peut-être même sur ces dernières années, je ne vois pas un joueur aussi talentueux que Benzema, ne pas avoir les obligations, je ne dis pas les contraintes, les obligations, quand il y a une coupure internationale, d'aller avec sa sélection. Ce qui veut dire que pour moi, sans lui enlever ses mérites, ni un brin, ni un millimètre de sa classe, sur les 4 dernières saisons, Benzema, qui a cette régularité depuis 11 ans au Real Madrid, a été dans une situation où... Même si c'était triste de ne pas aller avec l'équipe de France, cette coupure internationale lui a permis de continuer à être régulier, de pouvoir bien récupérer et de pouvoir être performant et de pouvoir avoir cette régularité. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
On est d'accord.
Mais je pense que ça contribue au fait qu'il puisse justement être sous-estimé, comme le disait Lionel tout à l'heure aussi. Ça a pu le desservir aussi quelque part, Roland. S'il avait été performant et même présent, pour être performant, il faut qu'il soit présent en équipe de France, peut-être qu'il aurait été un peu plus valorisé. Benzema, il a quand même raté, par exemple, le sacre lors de la dernière Coupe du Monde, par exemple, de l'équipe de France, la finale de l'Euro aussi. Tu vois, il a quand même été absent de ces moments-là. Ça contribue peut-être au fait que certains estiment qu'il peut être sous-estimé. Je sais pas.
Moi, je le vois comme ça, personnellement.
Ouais,
je suis
d'accord avec toi, mais regarde, quand tu regardes, par exemple, un joueur comme Lionel Messi, il a jamais été brillant avec sa sélection, mais Dieu seul sait qu'on sait que c'est un génie.
Oui, et. Mais là, il. Moi non plus, j'ai pas compris.
Ça veut dire que c'est pas parce que t'es pas avec ta sélection que t'es pas performant.
Oui, mais la sélection,
tu peux pas reconnaître la qualité d'un joueur.
Non, mais c'est pas ça. Benzema est dans la sélection.
Il a jamais été mauvais en sélection, Benzema. Même s'il a été meilleur dans certaines périodes et tout. Moi, ce que je me rappelle, par exemple, une Coupe du Monde, je me rappelle pas de toutes, mais celle de Benzema, quand on est au Brésil et qu'on perd 1-0 contre l'Allemagne, je suis désolé, tout le monde était content de cette Coupe du Monde. Quand par exemple, il y avait la possibilité de se reposer contre l'Équateur qui veut à tout prix jouer et que finalement il rate son match contre les Allemands. Il y a beaucoup de regrets aussi. Mais ce que fait Benzema depuis une douzaine d'années, c'est tout simplement difficile de faire aussi bien, même si des fois ça n'a pas été parfait.
Alors, et c'est pour ça, je pense qu'il est toujours, et ça c'est la reconnaissance, qu'il est toujours dans la plus grosse équipe du monde. Ouais. S'il n'était pas reconnu, il y a longtemps qu'il l'aurait dégagé.
Alors Fredo, c'est vrai que tout à l'heure, tu l'avais dit aussi, et on en a un petit peu parlé jusque-là, est-ce que le fait aussi que peut-être certains sous-estiment Karim Benzema, bah c'est pas Cristiano Ronaldo finalement?
C'est-à-dire, je comprends pas.
Bah, il était dans l'ombre finalement de Cristiano Ronaldo.
Ah oui, ça, bien sûr. Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr, bien entendu. Ah mais bien entendu. Parce que Benzema, et moi, on en a souvent discuté, quand il jouait, et quand il avait une occasion, bah, il regardait d'abord Cristiano Ronaldo pour lui passer la balle. Maintenant, il prend sa chance directement. C'est-à-dire qu'il a dû se déshabituer.
Il en a souffert, ça, un petit peu, Fred. Hein,
non,
au début,
pas tant que
quand
ça. Non.
J'ai trouvé 7-8 matchs où il cherchait un peu, il n'arrivait pas à trouver sa place de leader d'attaque et
Retrouvé sa place après.
Oui.
Quand tu joues pendant 9 ans à côté d'un des meilleurs joueurs de l'histoire et que tu l'assistes,
assistant, c'est ce que je voulais
bien
dire.
Bien entendu. Ah, bien entendu. Mais sincèrement, enfin.
Comme disait Laure, il s'en est remis intelligemment et il a su, parce qu'il a su courber les chines. Rechanger son football, jouer un peu plus.
Retrouver son football.
Oui, justement, son football de Lyon. Comme tu dis, Lionel, aussi, ce qui est important, c'est que, à la base, donc, Karim Benzema, c'est un numéro 9. Et on sait que les attaquants, souvent, ils sont un petit peu individualistes. Et lui, s'est mis au service du collectif. Et ça, c'est quand même aussi louable par rapport à lui.
Ouais, t'as raison.
Mais toi, tu trouves que c'est vraiment un pur 9, Benzema? C'est un 9,5 presque.
Bah, c'est un 9 que j'adore. Ouais, moi c'est un 9 que j'adore, mais qui. Ah, bah, il incarne, en fait, le profil de joueur que j'affectionne particulièrement.
Rappelons-nous les débats dans la période Giroud-Benzema, Benzema-Giroud. Bon, chacun avait sa vision. La mienne, c'était de faire jouer les deux. Une fois, ils ont joué tous les deux. On n'en a mis que 5 contre la Suisse. Mais par contre, ça marchait tellement bien qu'on l'a plus refait. Donc c'est vrai que par moment, c'était quand même difficile à suivre. Quand, par exemple, je me rappelle de Benzema utilisé dans ce qui a été un record là, de 1000 et quelques minutes sans marquer un but. Mais jouer dans un 4-3-3 en étant le numéro 9 tout seul avec le premier coéquipier à 40 mètres à droite, à 40 mètres à gauche ou 40 mètres en dessous, c'était difficile aussi de jouer. Par contre, en retrait d'un Giroud, eh ben je le vois là, moi, le poste de Benzema.
C'est un 9,5 pour toi aussi, plus.
Pour moi aussi.
Ouais, moi aussi, ouais.
Mais qui peut jouer 9, bien évidemment.
Oui, mais dans le football moderne, moi je pense qu'il est le numéro 9 moderne et dans un football aujourd'hui, qui doit être moins déchiffrable parce que je pense que les défenses sont de mieux en mieux, que les défenseurs centraux sont de plus en plus intelligents, savent de mieux en mieux lire les trajectoires des attaquants. Donc des attaquants de mouvement comme Benzema sont très utiles aujourd'hui, je pense.
Enfin, oui. Un attaquant comme lui, Firmino, voilà. Pour moi, il est un peu comme Benzema.
Exactement.
Il se met au service aussi des deux autres attaquants, mais il a un rôle tellement important. Et ça, pour moi aussi, il incarne effectivement le poste du numéro 9 moderne.
Et je vais terminer par une réflexion.
Il doit avoir une complémentarité avec les autres attaquants.
Et je vais terminer par une réflexion que m'a faite un jour Carlo Ancelotti. Il m'a dit, tu sais Fred, sans Benzema, la BBC ne marcherait jamais.
Ce ne sera plus la BBC, oui.
Non, mais à l'époque, vous savez.
Forcément.
C'est quand il gagne.
Du coup, il faut que tu enlèves un B.
Tu
recrutes un autre mec qui est avec un B, tu vois. Un autre attaquant avec un B, Berbatov,
d'accord,
par exemple.
Okay. Là,
en fait, BBC, c'est Berbatov, Bale, Cristiano Ronaldo.
Berbatov, quelle belle interview il nous a fait.
Ouais, t'as vu, c'est beau ou pas? Merci en tout cas. Fred, tu restes avec nous parce que dans quelques instants. Alors, ça, mon gars, le fuego que ça a foutu sur Twitter, cette histoire. Qui, pour vous, est le plus gros gâchis du foot? Alors, Laure Le Payeur a choisi le sien, Roland Courbis aussi, Lionel Charbonnier et toutes nos drôles de dames également ont choisi leur plus gros gâchis du foot également. On attend vos propositions également au 32-16. Et puis, on vous attend aussi pour le quiz. Et oui, à la fin de cet after, il y aura un quiz. On vous a fait un mix entre un thème qu'on a abordé hier, j'en dirai pas plus, d'autres thèmes qu'on va aborder aussi aujourd'hui. Bref, un quiz préparé aux petits oignons avec Arthur Robert. À tout de suite.
RMC, l'after foot.